Sécurité Santé, Claire Hédon.
Bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent pour cette deuxième partie de Priorité Santé. Aujourd'hui, nous parlons du sida à la veille de la journée mondiale de lutte contre cette maladie. Et on en parle donc avec le professeur Willy Rosenbaum du service des maladies infectieuses et tropicales de l'hôpital Saint-Louis à Paris, co-découvreur du virus du VIH-Sida. Et vous pouvez bien sûr, si vous le souhaitez, continuer à nous appeler au 33 1 56 40 18 22. Vous pouvez aussi nous laisser des messages et des questions sur Facebook ou par email à priorité.santé@rfi.fr. Nous avons au téléphone Fogué Foguito, qui est responsable de Positive Génération, une association camerounaise de lutte contre le sida. Fogué Foguito, bonjour.
Bonjour Claire et bonjour au panel.
On parle beaucoup de progrès réalisés dans la lutte contre le sida. Est-ce que ces progrès sont si réels que ça sur le terrain au Cameroun, par exemple?
Je dirais oui et non. Oui, dans ce sens que avec la gratuité des traitements, notamment les ARV, on voit que beaucoup de personnes séropositives ont aujourd'hui ce petit embonpoint. Ça porte bien surtout celles qui sont bien prises sur ce moment. Je dis non dans ce sens que, bien évidemment, malgré ces légers progrès, on se rend compte qu'en 2012, il y a encore des difficultés d'accès au traitement, si difficile même peut-être plus qu'il y a 10 ans. Ce qui se pose la question, en même temps, on a d'un côté, surtout dans les grands centres urbains, des patients qui ont un accès fluide au traitement, mais de l'autre côté, dans les zones rurales, les zones reculées, des patients où on observe de plus en plus de perdus de vue dans la vie active, ce qui fait que nous disons c'est oui et non ces progrès-là.
Alors justement, vous avez créé un observatoire sur l'accès au traitement au Cameroun et au Burkina Faso, le Treatment Access Watch, pour étudier les difficultés dans ce domaine. Qu'est-ce qu'il en ressort? Et qu'est-ce qu'il en ressort, entre autres, sur la question de la fréquence des ruptures de médicaments?
Sur la question de rupture de médicaments, clair, c'est pas si grave que ça, comme je disais tantôt, mais c'est les ruptures de ce qui amène aux médicaments, c'est-à-dire les ruptures des réactifs ou les examens qui permettent aux patients d'arriver aux médicaments. Parce que voyez-vous, pour qu'un patient ait accès à ce traitement, il faut qu'il ait fait des examens qui permettent de démontrer qu'il a accès au traitement. Et quand il a accès à ce traitement, il faut qu'il fasse de temps en temps des examens qui permettent de savoir si le traitement qu'il prend marche bien ou bien s'il est résistant. Or, c'est à ce niveau-là que nous rencontrons d'énormes difficultés pour les patients, que ce soit dans les zones urbaines comme dans les zones rurales, à avoir accès aux soins. Ce qui fait que si déjà il y a un blocage au niveau de l'accès aux examens qui permet d'avoir accès aux médicaments, d'office il y a un blocage pour l'accès aux médicaments. Je prends un exemple simple, ne serait-ce que pour le dépistage, c'est-à-dire l'entrée dans la prise en charge. Au Cameroun, l'État a une loi qui dit que le seul dépistage c'est 500 francs, c'est-à-dire moins de à peu près 0,76 euros. Aujourd'hui, on se trouve dans les formations qui le font à 28 euros, donc à 18 000 francs. Où est le gap qui fait que plein de personnes n'arrivent pas à avoir accès aux examens qui vont leur permettre d'entrer dans la prise en charge.
Une réaction par rapport à ça, professeur Willy Rosenbaum, c'est
oui,
essentiel.
Moi, ce que je constate sur le terrain, c'est que la première étape indispensable à la prise en charge, c'est le dépistage. Et dans beaucoup de pays, je vois des ruptures qui durent plusieurs mois, des réactifs qui permettent de faire le dépistage. Donc, bien entendu, le reste de la chaîne ne peut pas suivre. Donc, c'est la première étape. Ensuite, il faut faire des examens pour savoir si les personnes sont éligibles. Et là aussi, il y a des ruptures de réactifs, des machines qui fonctionnent pas. Il y a eu un énorme effort de fait pour mettre en place tous ces outils. Et puis, finalement, pour des raisons multiples...
Est-ce que c'est pas révélateur du dysfonctionnement des systèmes de santé dans ces pays en développement?
Oui, mais la lutte contre le sida, vous avez raison, mais la lutte contre le sida a aussi permis de structurer l'offre de santé. Il y a un débat entre pour savoir si on détourne pas des moyens de santé grâce à l'investissement qu'on fait sur les moyens qu'on met sur le sida. Moi, je pense que c'est un faux débat. Les choses ne sont pas étanches. Tout progrès dans l'organisation, dans l'offre de soins, dans la structuration de l'offre de soins qui est faite autour du sida bénéficie à l'ensemble du système de santé. Mais là, il y a un vrai problème qui va de l'incompétence de gens pour gérer ce genre de choses à des ruptures de personnel, des ruptures d'approvisionnement, voire à de la corruption, puisqu'il faut quand même pas négliger cet aspect-là.
Fogué Foguito, qu'en est-il aussi de la question de la discrimination? On en est où?
Je crois que la discrimination reste ici le parent pauvre des engagements et d'aller contre VIH-Sida. Avant-hier, à Douala, un rapport est sorti sur l'état de la discrimination au Cameroun. on remarque que plus de 47% des séropositifs ont perdu leur emploi du fait de leur statut sérologique. Et que bien même dans les familles, on a 81% de taux de discrimination. Vous voyez que ces deux chiffres démontrent la suffisance des réalités de terrain qui traduisent en effet le manque de volonté politique ou bien de créer un, comment je veux dire ça, de politique de lutte universelle, de créer un espace ou bien un environnement qui permette à la personne séropositive ou à sa famille de se sentir en sécurité pour valablement soit vivre avec le VIH-SIDA.
Vous faites oui de la tête,
ah oui, professeur Rosenbaum. Oui. Vous savez, je vais dire une chose sans doute désagréable pour nos amis d'Afrique de l'Ouest en particulier, mais si vous regardez attentivement les derniers chiffres de l'OMS, ils font le constat d'un certain nombre de progrès qui ont été faits, insuffisants, mais quand même des progrès qui ont été faits sur la diminution du nombre de décès, le plus grand nombre de personnes qui ont accès au traitement, sur le plus grand nombre de femmes qui bénéficient de stratégies de prévention de la transmission mère-enfant. Ces progrès-là, quand vous regardez dans le détail, c'est essentiellement l'Afrique francophone, anglophone qui l'a fait. C'est l'Afrique anglophone. L'Afrique francophone, non. Et quand on fait une analyse des raisons qui font que c'est comme ça, c'est que l'engagement politique, et c'est, le terme a été utilisé, d'une manière générale, des responsables en Afrique francophone n'est pas aussi fort que celui de l'Afrique anglophone. Donc je crois que ce qui manque encore aujourd'hui, c'est sans aucun doute un engagement politique beaucoup plus déterminé des responsables et qui doivent non pas éditer des lois répressives, parce que c'est quand même ça qu'on voit, mais plutôt au contraire imaginer comment on peut donner des droits aux personnes quelles qu'elles soient, parce que c'est ça qui est le meilleur outil pour lutter contre la discrimination.
Les lois répressives empêchent de faire de la prévention.
Ben oui, puisque ça renforce la discrimination.
Oui, vous voulez réagir, Foguet-Foguito, je vous entends.
Je voulais réagir en disant que je trouve ça tout à fait raison. Sur le plan politique, nous avons vu la mollesse de la francophonie pour apprendre le leadership dans le monde francophone de la lutte contre le VIH-SIDA. La francophonie, c'est que la culture, les beaux livres. Mais on ne peut pas passer le temps à faire de la poésie quand les gens meurent. Pour revenir sur le dernier point sur l'engage, sur les lois, nous pensons que pendant longtemps, les gens ont cru qu'en faisant des lois sur le VIH-SIDA, bien pour soutenir les personnes séropositives, ça poussait à lutter contre le stigma. Mais on a vu bien que ces lois-là contribuent davantage à stigmatiser et même à pénaliser ou criminaliser l'infection à VIH. Nous pensons aujourd'hui qu'il est plus important de promouvoir les droits humains, de droits humains en tant que droit fondamental dans la lutte contre le VIH-SIDA pour pouvoir lutter sans discrimination, bien sans discrimination, par rapport aux personnes séronégatives contre le VIH-SIDA.
Une dernière question, Foguet-Foguito. Est-ce que vous sentez déjà, par exemple au Cameroun, une baisse de l'aide internationale?
Ben oui, tout à fait. Dans un pays comme le nôtre, où près de 78% des fonds à la lutte contre le VIH-SIDA viennent de l'extérieur, nous remarquons, bien évidemment, depuis presque 5 ans, une diminution grave, je dis réelle, de l'aide internationale à la lutte contre le VIH-SIDA, notamment avec les diminutions, les coupures du Fonds mondial, et aussi d'autres partenaires de développement qui sont soit partis du pays ou aussi ne concluent pas davantage. Mais j'aimerais ajouter aussi que, comme je disais, pour ça, il y a aussi un souci de ces partenaires que le peu d'argent qui existe soit bien géré. Et dans ça, je ne crois pas que nous sommes bons élèves.
Merci beaucoup, hein, Foguet-Foguito. Je rappelle que vous êtes responsable de Positive Génération, une des associations camerounaises de lutte contre le sida.
Priorité santé sur RFI.
Aujourd'hui, je reçois le professeur Willy Rosenbaum qui répond aux questions des auditeurs sur le sida. Juste une réaction par rapport à ce qui vient d'être dit et sur l'aide internationale, professeur Willy Rosenbaum. Il y a une taxation sur les transactions financières qui a été mise en place et le résultat est un peu décevant sur ce qui va partir à l'aide internationale.
Moi, je dirais très décevant. Très décevant parce que concrètement, cette taxe ne va pas être adoptée par l'ensemble des pays, mais c'est déjà important qu'elle le soit par un certain nombre.
Dont la France.
Dont la France, elle a été promoteur là-dessus. Mais il faut savoir que sur ces redevances, enfin sur les sommes qui vont être récoltées, ce qui est prévu pour le développement, d'une manière générale, c'est seulement 10%.
Et combien sur, à la santé sur l'étude?
Sur la santé, c'est 3% ou 4%, et là-dessus, combien sur le sida, ça sera rien. Alors peut-être qu'au niveau symbolique c'est important, mais initialement quand même, cette taxe devait servir d'une manière générale à l'aide au développement et particulièrement à la lutte contre les pandémies, et c'est absolument pas le cas. Donc il y a un effet de manche là qui est un peu décevant et très frustrant.
On a Laurence qui nous appelle de Yaoundé au Cameroun. Laurence, bonjour, vous avez une question à poser, on vous écoute.
Oui, bonjour madame, bonjour professeur. Moi, je vous appelle juste pour savoir, parce qu'il y a un an, mon époux a été détecté séropositif. Et moi, je l'ai suivi ensuite, j'ai refait le test avec lui une deuxième fois, et moi, je suis séronégatif. Et je voulais savoir, le médecin nous avait dit que avec les traitements, ça pourra aller, parce que ça fait un désordre dans le couple. Et du coup, pas de relation sexuelle, tout ça, moi j'avais un peu peur. Et après, on a essayé de surmonter, on a essayé avec le préservatif, de faire l'amour, tout ça. Mais c'est inconfortable, tout ça. Parce qu'on a deux enfants, c'est pas, on est mariés il y a très longtemps. Et donc, moi, à la fin, on a posé la question au médecin. Le médecin nous a dit qu'après 6 mois de traitement, s'il suivait bien son traitement, qu'après... après 6 mois, si on fait la charge virale qu'elle est indétectable, on pourra faire les relations avec temps préservatif. Donc ça va faire bientôt un an, et il y a quelques mois on a commencé à faire les relations sans préservatif. Mais moi j'ai tout le temps peur, et cette peur ça m'angoisse tellement que je me demande, est-ce que je fais bien, est-ce que je dois arrêter de faire l'amour avec lui. C'est des questions qui reviennent à chaque fois.
Merci beaucoup Laurence pour ce témoignage. On comprend bien toutes les questions que vous vous posez, professeur Willy Rosenbaum. D'abord, vous avez été un des premiers à nous dire, moi je me rappelle, à cette antenne, effectivement, quand on est sous traitement avec une charge virale quasiment indétectable, a priori on n'est pas contaminant.
Bon, c'est plus compliqué que ça. Le fait que quelqu'un prenne un traitement, quel que soit le résultat d'ailleurs sur le taux de virus dans le sang, le risque est réduit de 96%. En population, vous voyez. Alors, c'est finalement identique à celui, cette diminution de risque est identique à celle de l'usage d'un préservatif. Alors, je remercie vraiment Laurence de son témoignage et de sa question, parce que c'est des choses que j'entends tous les jours. Elle n'est pas du tout la seule dans cette circonstance. Et à la fois, je trouve que elle a une certaine façon calme de se confronter à une situation difficile, et je comprends aussi, c'est normal d'exprimer une certaine inquiétude ou une peur, et elle le gère plutôt bien. Alors, il faut savoir que le traitement est un outil extrêmement puissant de réduction du risque de transmission. Faut faire attention si le traitement est interrompu, parce que là il y a un risque de nouveau de contamination, et il est souvent plus important. Alors après, comment est-ce qu'on gère ça? La majorité des couples se trouvent dans une situation où finalement ils n'utilisent plus le préservatif. Pour certains, en fonction du ressenti, c'est très difficile, parce que même si le risque est minime, on ne peut jamais affirmer qu'il est totalement nul. Et ils utilisent en plus le préservatif. Et voilà, en fonction du moment, en fonction du ressenti de chacun, ben chacun utilise les choses dans la relation intime qu'il a avec son partenaire.
Mais donc les couples vous parlent de ces difficultés-là?
Bien entendu, aujourd'hui, les couples en parlent beaucoup. Et vous voyez, dans toute situation, quand on est dans une situation où on prend un risque, on évalue toujours le risque et le plaisir. Il n'existe pas d'activité humaine sans risque. Quand on prend sa voiture pour partir en week-end, le week-end de Pâques, on sait qu'on augmente son risque de 200% d'avoir un accident. Mais c'est parce que ça nous fait plaisir de partir, on prend ce risque en plus. Je ne sais pas si la comparaison avec les week-ends est tout à fait adaptée.
Par la Laurence. Mais Laurence, j'avais envie de vous...
Donc,
il y a toujours un risque. Est-ce que vous...
On ne peut jamais dire qu'un risque est zéro. Mais il est considérablement réduit, et il n'est pas déraisonnable de réduire ce risque au maximum, et en fonction du plaisir ou de la circonstance dans laquelle on se place, d'utiliser telle ou telle méthode, une ou deux.
Voilà. Mais Laurence peut tout à fait avoir envie, effectivement, que son mari continue à utiliser des préservatifs. Et vous le dites, vous voyez des couples qui le font. Laurence, est-ce que vous arrivez à en parler avec votre mari?
Oui, on parle beaucoup. Il ne passe rien. Il prend vraiment au sérieux la prise du médicament. Il prend tout le temps son médicament. Donc, il est vraiment conscient. Et puisque, bon, il tient à nous. Et bon, donc moi, j'essaie de le soutenir aussi. C'est pas facile. Mais moi, j'ai tout le temps la peur.
Est-ce que ça vaut?
C'est ça. En fait, moi, j'ai tout le temps peur. Je le fais. Ne pas aussi le blesser parce que on a une vie sexuelle vraiment, on avait une vie sexuelle très épanouie et physiquement tout ça qui arrive. Mais moi j'ai peur, je le fais, je fais l'amour avec lui, on a des relations sexuelles normales en ce moment. Et même il y a un mois, j'ai refait le test et c'était encore séronégatif pour moi. Parce que moi j'ai besoin de me rassurer que je ne vais pas avoir cette maladie parce qu'on a deux enfants quand même. Donc il faut se préserver pour le futur et tout ça quoi.
Est-ce que ça vous rassure un peu ce que dit le professeur Willy Rosenbaum?
Oui, ça me rassure parce que au fait moi ce qui me fait peur actuellement c'est que avant qu'il soit détecté c'est positif, on avait un projet de faire un autre enfant. Et subitement, moi, j'ai arrêté tout ça. Je le veux toujours, mais je me dis non, je peux pas. Et voilà quoi. Mais bon, si on me dit que ça le risque est minime, ça va. Parce qu'il prend vraiment son traitement au sérieux. Mon mari, il sait qu'il doit vivre pour sa famille et pour lui et pour tout ça. Quoi. Donc, si c'est le cas, moi, ça me rassure beaucoup.
Professeur Willy Rosenbaum et l'envie d'enfant aussi.
Ah, c'est... Ouais. Vous savez, quand les Suisses ont commencé à aborder ce sujet, c'est parce que en Suisse on ne peut pas faire dans les couples sérodifférents de procréation médicalement assistée. Et donc ils ont voulu permettre à des couples sérodifférents de se dédouaner de la peur ou de la crainte de faire des enfants naturellement quand l'un des partenaires était traité. Donc ça a été une motivation très importante. Et moi, je dois avouer qu'aujourd'hui, la très grande majorité des couples sérodifférents fait des enfants naturellement.
Parce que justement, le conjoint qui est porteur est sous traitement.
Parce que quand le conjoint est sous traitement, depuis au moins 6 mois, comme on le lui a dit, maintenant... beaucoup des craintes qui sont évoquées dans cette histoire sont beaucoup fantasmatiques. Hein. Elle fait ce qu'il faut, Laurence. Elle se fait dépister, voilà, ça doit la rassurer de se faire dépister. Ça fait des années que cette situation perdure, elle n'est toujours pas contaminée, ça devrait la rassurer.
Merci beaucoup en tout cas Laurence pour votre témoignage et bravo pour ce que vous faites. On a Paul qui nous appelle de Bamako au Mali. Paul, bonjour.
Bonjour Claire, bonjour Abdiakar aussi.
Oui, nous vous écoutons.
Ok, moi j'avais une question à poser. C'est surtout par rapport à une affirmation d'un père éducateur d'une ONG de la place ici. Bon, d'après ce père éducateur là, malgré une exposition répétée sur plusieurs années, au VIH-SIDA, il dit que certaines personnes restent idem, c'est-à-dire séro-négatives. Alors, ce que je voudrais savoir, est-ce une fausse affirmation de la part de ce père éducateur? Sinon, comment est-ce que vous serez docteur?
Alors, professeur Willy Rosenbaum, c'est quelque chose que vous avez évoqué en début d'émission.
Oui, bien entendu, on n'attrape pas le VIH au cours de n'importe quelle relation sexuelle. Enfin, la probabilité est relativement faible, mais c'est vrai que plus on s'expose, il faut avoir des notions de probabilité, hein, c'est pas toujours très simple, les gens comprennent pas bien. Une probabilité sur 100 d'être contaminé au cours d'une relation sexuelle, mais ça peut être la première. Et la seconde, ça reste une probabilité sur 100, la troisième, ça reste une probabilité sur 100, mais la répétition augmente bien entendu le risque. Donc effectivement, on a des couples où l'une des personnes est contaminée et l'autre pas, qui ont des relations sexuelles pendant des années et qui sont dont le partenaire reste indemne, qui pour des raisons qui ne sont pas liées au fait qu'ils sont protégés naturellement. Et puis comme je vous disais tout à l'heure, il y a 1% de la population qui est protégée et c'est des gens à qui il manque un récepteur du virus, mais ça ne reste qu'1%. La majorité des cas, c'est parce que c'est une maladie finalement qui n'est pas si transmissible. C'est seulement la répétition de l'exposition qui fait que la maladie se dissémine.
Finalement, moins transmissible, enfin moins que les hépatites, par exemple.
Beaucoup moins que les hépatites.
Ouais, c'est
beaucoup
important
moins
de...
que les hépatites B, en tout cas. Hein.
Vous aviez, je crois, une deuxième question à poser, Paul.
Oui, bon, enfin, je voudrais savoir, y a-t-il un moyen de découvrir chez chaque individu s'il résiste naturellement ou pas au VIH-SIDA?
Alors,
oui, comment?
Bon, donc le 1% de population qui est en tout cas résistant ou en tout cas partiellement résistant au VIH, on peut le déterminer, mais c'est des tests génétiques qui sont pas facilement disponibles ni dans les pays en développement, même pas tellement dans les pays.
Et justement, professeur Rosenbaum, vous êtes amené à les faire ces tests dans quel cadre? Plutôt pour des essais thérapeutiques, par exemple?
Non, en fait, ce qu'on teste, c'est l'affinité du virus pour le récepteur, mais on ne teste pas d'une manière générale l'aptitude des gens à avoir ou non ce récepteur.
Mais ça vous sert pour les recherches, c'est
ça? Oui, c'est ça, oui, dans certains cas de recherche, mais on ne le fait pas du tout en routine, c'est des tests assez compliqués.
Merci beaucoup, Paul, pour vos questions. On a Michel qui nous appelle d'Abidjan, Côte d'Ivoire. Michel, bonjour.
Bonjour.
Nous vous écoutons.
J'ai deux petites questions à poser. Je voudrais savoir, pour les hommes en circoncis, est-ce qu'ils sont plus exposés à la contamination? La deuxième, quel est le temps nécessaire qu'il faut après le rasage avant d'avoir des rapports sexuels?
Alors, professeur Willy Rosenbaum, la question de la circoncision.
Ah, c'est une vieille question, puisqu'on a montré effectivement qu'il y avait une réduction du risque de transmission pour les hommes qui étaient circoncis, médicalement circoncis. J'insiste là-dessus, parce que bon, dans beaucoup de pays dans le monde, et singulièrement en Afrique, la majorité des personnes circoncis sont circoncis de manière rituelle, et avec des rituels très différents d'une région à une autre. Donc ce qu'on a démontré, c'est que la circoncision médicalisée, qui n'a souvent rien à voir avec les circoncisions rituelles, peut protéger, et la réduction du risque est d'un peu plus de 50%. 50, 55%, 60%.
Donc ça marche pas à tous les coups.
Donc c'est une réduction du risque, mais ça ne protège pas, vous voyez, même autant qu'un traitement de la personne contaminée, et encore moins d'un préservatif. Donc encore une fois, dans le calcul mathématique qui fait qu'on peut être contaminé, eh ben, on réduit de 60% ce risque, mais ça n'empêche pas du tout de l'être.
Et quand on vient d'être circoncis,
alors
à partir
ça,
de quand
on peut... augmente le risque à cause de la cicatrice, bien entendu, si on s'expose au virus, il faut attendre la cicatrisation complète, qui peut prendre 4 à 6 semaines, hein, des fois. Et on sait que certaines personnes se contaminaient en reprenant les relations sexuelles juste après une circoncision.
Merci beaucoup. Je crois que vous avez une autre question, Michel, ou pas? Non, vous avez posé vos deux questions.
Oui, je disais que après le rasage, quel est le temps nécessaire qu'il faut attendre après le rasage avant d'avoir des relations?
Le rasage? Vous parlez du rasage?
Le rasage.
Le rasage de quoi? Du visage?
Non, pas le visage, le rasage... de la verge.
Ah non, attendez, vous voulez dire la circoncision, l'acte de circoncision, c'est ça?
Non. Lorsque vous aimez, vous rasez les poils, en fait.
Ah, pour l'intervention chirurgicale,
voilà, c'est
oui.
Ça, quel
d'accord.
Est le temps qu'il faut,
mais le rasage, il n'y a pas de problème avec le rasage. Le problème, c'est la cicatrisation de l'acte de circoncision qui est un problème, mais le rasage, ce n'en est pas un.
Merci beaucoup, Michel, pour vos questions. On va prendre une dernière question d'Ousmane, qui nous appelle d'Abidjan, en Côte d'Ivoire. Ousmane, bonjour, on vous écoute.
Oui, bonjour, Claire. Bonjour, docteur.
Bonjour.
J'ai juste deux petites questions à poser, là. J'aimerais savoir... par rapport aux ARV pour les enfants, ne pourrons pas trouver une formule injectable?
Alors, pour les antirétroviraux pour les enfants, c'est vrai que ce sont souvent des médicaments un peu difficiles à avaler. Et est-ce qu'on pourrait pas trouver une formule injectable un peu plus facile à supporter?
Il y a un plaidoyer qui dure depuis maintenant plusieurs années pour améliorer la pharmacodynamique des médicaments pour les enfants. Il y a eu très peu de travaux là-dessus, même si aujourd'hui, le sujet est mis sur la table et il y a des travaux qui sont faits là-dessus. Alors, le problème de l'injection une fois par semaine ou une fois par mois est un sujet qui est exploré maintenant depuis quelques années. Et à ce jour, il y a deux médicaments qui sont développés et dont on peut espérer qu'ils pourront être utilisés de cette manière-là. dans un délai relativement court. Mais pour l'instant, il n'y a pas de combinaison suffisamment efficace et puissante de plusieurs médicaments qui pourraient être utilisés de cette manière-là. Mais c'est une voie de recherche et je suis persuadé que dans les années qui viennent, il y aura ce type de services qui pourront être offerts pour les enfants. Et on a raison d'insister que pour eux c'est très important, mais aussi pour les adultes, où ça peut rendre des services pour des adultes qui ont du mal à prendre des médicaments quotidiennement.
Merci beaucoup Ousmane pour votre question. On arrive à la fin de cette émission, professeur Willy Rosenbaum. Un mot de conclusion, il nous reste quelques secondes.
Alors écoutez, moi j'ai envie de redire ce que je dis déjà depuis plusieurs années. On a aujourd'hui les outils, dépistage, traitement, prise en charge, suivi des patients, lutte contre la discrimination, pour voire diminuer le nombre de nouvelles contaminations, voire diminuer l'épidémie. Ce qui nous manque le plus, c'est la volonté politique, et pas simplement l'investissement financier qui pourrait en découler, mais l'investissement des politiques locales et internationales.
Professeur Willy Rosenbaum, merci. Bonne fin de semaine à tous. On se retrouvera la semaine prochaine pour une série d'émissions sur la vaccination. Merci à toute l'équipe de Priorité Santé, Didier Bleu, Assetou Samaké, Laurent et Didier Chérouse.
RFI est là-bas, mais aussi ici. Freetown, 89.9 FM.